autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour prendre un peu de hauteur aujourd'hui et observer la Terre et ses océans vus de l'espace. En quoi l'océanographie spatiale, l'étude et l'analyse des océans par satellite, a révolutionné nos connaissances sur l'océan en général et sur la montée du niveau de la mer en particulier, et comment, face au changement climatique, ces analyses sont devenues indispensables et décisives pour comprendre le rôle, mais aussi l'impact du changement climatique sur l'océan, à la fois marqueur et régulateur du climat. Autant de recherches initiées et poursuivies par notre invitée, la géophysicienne Annie Cazenave du laboratoire LEGOS, pionnière de l'océanographie spatiale, chercheuse internationalement reconnue, qui a été membre du GIEC, du groupe d'experts sur le climat, et qui vient d'être distinguée par le prestigieux prix Wettlesen, l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre, autour de la question « Pourquoi étudier les océans depuis l'espace ?» et « Comment l'observation par satellite a changé notre regard ?» Bienvenue.
On a appris à utiliser cet objet comme un vrai laboratoire dans l'espace, on a appris à maîtriser la science qu'on faisait avec, et puis ça s'est généralisé, on a pu aller dans l'espace beaucoup plus facilement. C'est aussi un moment où se produit une autre rupture importante, c'est qu'on passe du monde infini au monde fini. On prend conscience dans les années 90 à 2000 qu'on ne pourra pas quitter la Terre, qu'on est enfermé dans cette Terre et qu'on commence à toucher les limites de la Terre. Donc l'objet se retourne, on regarde vraiment cette Terre comme un espace fermé. Et puis les moyens informatiques nous permettent de la modéliser, de rentrer des données, des mesures là-dedans.
Bonjour Annie Cazenave.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Toulouse pour partager vos recherches et vos découvertes en océanographie spatiale, un champ de recherche assez nouveau qui vient de s'ouvrir, hein, comme vient de le rappeler l'expert du CNES Michel Avignon. Vous avez, Annie Cazenave, pu démontrer la hausse du niveau de la mer en lien avec le changement climatique, mais aussi déterminer sur la profondeur, hein, le relief et la surface des océans, on y viendra. Vous êtes géophysicienne de formation, chercheuse émérite au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale rattaché au CNES. Membre de l'Académie des sciences, vous avez également été membre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat de 2004 à 2013. Et vous venez d'être récompensé par le prestigieux prix de la fondation Wettlesen de l'Université de Columbia aux États-Unis, une distinction qui équivaut au prix Nobel pour les sciences de la Terre, qui n'a d'ailleurs été décerné auparavant qu'à un seul Français, le climatologue Jean Jouzel. Donc bravo et félicitations Annie Cazenave. Il faut dire que vous êtes une pionnière de l'océanographie spatiale, de l'observation et de l'analyse des océans vus de l'espace par satellite altimétrique. Une recherche donc qui a commencé à être possible dans les années 90. En plus, vous analysez hein, toutes ces données. C'était une époque, finalement, Annie, où l'on parlait encore peu de changement climatique.
Alors, oui, tout à fait. D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas toute seule. On est nombreux, on travaille en équipe, évidemment.
Bien sûr.
C'est vrai. Bon, en fait, l'idée d'observer les océans et en particulier la circulation océanique depuis l'espace, à l'aide de satellites dits altimétriques, comme vous l'avez mentionné. En fait, c'est une idée qui est assez ancienne et qui remonte à la fin des années 60. En 1969, il y a eu un congrès aux États-Unis auquel des collègues français ont participé. Et déjà à cette époque-là, eh bien, il avait été émis l'idée qu'on pourrait utiliser des satellites pour mesurer les courants océaniques, etc. Évidemment, à cette époque-là, on parlait pas du tout, encore peu de changement climatique, mm-hmm. et encore moins de pouvoir mesurer la hausse du niveau des mers. Alors cette idée, elle a évolué. Et puis, à la fois du côté français et du côté américain, il y a une mission, une première mission précise qui s'appelle Top Ex-Poséidon, qui a été développée conjointement donc des deux côtés de l'Atlantique. Et qui a été lancé en 1992 pour mesurer les courants océaniques. Mais à cette époque-là encore, au début des années 90, on ne pensait pas qu'on serait capable de mesurer la hausse du niveau des océans liée au réchauffement climatique.
Qu'est-ce qui a fait changer les choses?
D'abord, c'est les données de cette première mission qui a été suivie par d'autres. des Jason 1, Jason 2, mm-hmm. Jason 3 aujourd'hui, et puis encore d'autres satellites lancés par l'Agence spatiale européenne. Bien sûr, les observations qui ont été collectées ont permis de mieux comprendre la circulation des océans. Mais un certain nombre de chercheurs, dont moi et des collègues au LEGOS, on s'est dit, on va quand même essayer de voir si on est capable de mesurer si la mer monte, si la mer ne monte pas, etc. Alors, on a commencé à faire ça à la fin des années 90, on va dire il y a juste 20 ans. Alors, au début, on s'intéressait essentiellement au cycle annuel. Et puis, au fur et à mesure de l'allongement des séries d'observations, on a pu commencer à regarder s'il y avait des tendances. Alors, qu'est-ce qui a fait changer ça? Eh bien, en fait, au fil des années, le traitement des observations, avec tout ce que ça comporte, et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de correction, de différents phénomènes qu'il faut absolument éliminer, a fait qu'on a pu améliorer de façon assez spectaculaire la performance de ces mesures, de ces observations. Et effectivement, dans les années 2000-2010, on a pu commencer à mettre en évidence, à partir de l'espace, cette hausse du niveau des océans. Alors, bien sûr, pas à partir des années 2000, mais en commençant à partir du lancement de TOPEX en 1992.
Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a toutes ces images, oui.
Oui, aujourd'hui, on a une série d'observations de presque 30 ans, pas tout à fait 30 ans.
Et qui montrent que le niveau de la mer monte.
Que la mer monte, non seulement elle monte, mais le phénomène s'accélère. Et voilà.
Le phénomène s'accélère, oui.
Pourquoi ?
Voilà, on verra pourquoi tout à l'heure. Et vous avez également montré que c'est variable, que la mer monte, mais pas partout de la même manière.
Alors effectivement, c'est grâce au satellite, le satellite couvre l'ensemble des océans en quelques jours et puis repasse sur les mêmes régions. Et donc, grâce au satellite, on a cette vision globale du domaine océanique qu'on n'avait pas du tout auparavant. Parce qu'avant, comment on mesurait la hausse du niveau des océans uniquement le long des côtes continentales à l'aide d'instruments qu'on appelle des marégraphes, qui ont été installés dans des ports pour mesurer les marées océaniques depuis quelques décennies, un siècle ou plus, dans certaines régions. Mais en fait, on a, avec ces anciennes données, ces données historiques, on a pu constater qu'au cours du XXe siècle, la mer a un peu monté, à peu près 15 cm au cours du XXe siècle. Mais on n'avait aucune vision de ce qui se passait en plein océan. Donc, on ne pouvait pas savoir si la mer montait de façon uniforme ou pas. Et grâce au satellite, on a découvert que ce n'était pas le cas. Effectivement, il y a des régions où la mer monte jusqu'à 3 fois plus vite que la hausse moyenne globale.
Élargissement de la perspective, je ne sais pas si ça donne un élargissement de nos perspectives à nous, mais en tout cas, élargissement d'horizon autour de cette question de l'océanographie spatiale. Je propose d'abord, avant de voir les causes justement, un petit détour par le Collège de France avec le professeur et climatologue Édouard Bard, titulaire de la chaire Évolution du climat et de l'océan. C'était en 2013 pour l'ouverture de votre chaire annuelle, professeur Annie Cazenave, La Terre et l'environnement observés depuis l'espace. Et c'est le professeur Édouard Bard qui introduisait votre leçon inaugurale au Collège de France.
Une constellation de satellites tourne en permanence au-dessus de nos têtes. C'est ainsi que des instruments variés mesurent des paramètres aussi différents que les températures de l'atmosphère et de l'océan, la couverture nuageuse et les pluies, la salinité et les courants marins, les teneurs atmosphériques en vapeur d'eau, en gaz carbonique et bien d'autres composés. Les satellites mesurent aussi l'écoulement des glaciers et des calottes polaires, ou bien encore l'extension des plantes terrestres et marines. Ces multiples observations de notre planète sont indispensables pour qui veut en comprendre et en prévoir l'évolution, qu'elles soient d'origine naturelle ou anthropique. Je suis certain que votre leçon inaugurale et votre cycle d'enseignement nous aideront à mieux comprendre les relations complexes entre le niveau marin et le cycle de l'eau, qui présentent la caractéristique unique de mêler intimement les échelles d'espace et de temps. Il faut donc regarder la Terre d'en haut et d'en bas, être à la fois astronome et géologue pour mieux comprendre l'évolution de notre planète. Vous en êtes un brillant exemple.
Un brillant exemple, à la fois astronome et géologue, dit de vous Édouard Bard, Annie Cazenave. C'est cette double casquette. Enfin, vous n'êtes ni climatologue, ni océanographe, mais...
Ni astronome, ni géologue.
Vous êtes géophysicienne.
Oui, enfin, je ne sais pas exactement. Je suis géodésienne, puisque j'ai commencé ma carrière au CNES pour étudier la forme de la Terre, la rotation de la Terre, son champ de gravité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la géodésie. Mais j'aimerais bien être astronome, parce que j'aurais bien voulu être astronome. Mais en fait, le hasard a voulu que j'étudie la Terre et c'est aussi passionnant.
Vous étudiez la Terre, vous étudiez la Terre. Aujourd'hui, vous étudiez les océans et vous avez quand même également réussi à montrer, ça c'est avec les tout premiers satellites altimétriques, que la surface de la mer, l'altitude de l'océan, que la surface de la mer n'est pas sphérique, n'est pas plate, n'est pas uniforme non plus.
Alors, c'est tout à fait vrai, parce que, bon, tout à l'heure, j'ai dit le premier satellite qui a permis d'étudier l'océan, c'est Topex Poséidon, lancé en 92. Mm-hmm. Mais auparavant, il y a eu des missions qui ont été développées, notamment par les Américains, mais avec une précision beaucoup moins bonne et qui ne permettait pas à l'époque de mesurer les courants océaniques ou la hausse du niveau de la mer liée au changement climatique. En revanche, ces premières missions altimétriques ont permis de mettre en évidence que la surface de la mer, en moyenne, si on fait abstraction des courants océaniques, des vagues, enfin tous ces phénomènes liés à la dynamique de l'océan, eh bien, n'est pas plate. Il y a des creux, des bosses, qui sont en fait une image de la topographie des fonds marins. C'est-à-dire, au-dessus d'un volcan sous-marin, eh bien, la mer se bombe, alors pas d'un kilomètre, bien sûr, de quelques mètres. Et puis, au-dessus d'une fosse océanique, comme la fosse des Mariannes, par exemple, dans le Pacifique Ouest, eh bien, la mer, y a une dépression de la surface de la mer d'une dizaine de mètres. Et la surface de la mer, en moyenne, je veux dire, si on regarde la composante qui n'évolue pas dans le temps, la composante permanente, eh bien, c'est simplement une image de la topographie des fonds marins. Alors ça, c'était aussi une grande découverte parce qu'on ignorait totalement ce phénomène. Et grâce à ces mesures qui ont été collectées pendant une quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années plus précisément, eh bien, on a pu effectuer des cartes de la topographie des fonds marins, ce qu'on appelle la bathymétrie.
Oui.
Et ça, c'était aussi extrêmement intéressant et utile parce que auparavant, comme pour plein d'autres phénomènes océanographiques, les informations n'étaient connues, les phénomènes n'étaient connus qu'à partir de mesures de bateaux, avec donc une assez bonne couverture dans l'hémisphère nord et puis d'immenses trous dans l'hémisphère sud. Donc, pour la première fois, on a pu faire des cartes globales de la topographie des fonds marins, avec à la fois des applications pratiques pour la pêche, par exemple, pour l'exploration pétrolière en mer, et puis aussi beaucoup pour la compréhension de la tectonique des plaques, la limite des plaques tectoniques, etc.
Ça a vraiment
des avancées à la science tout à fait considérables.
C'est ça, des avancées dans la connaissance de cet extraordinaire milieu marin, l'altitude de l'océan, notion qu'on n'aurait pas imaginée. Oui. Et puis, ça a fait avancer la connaissance sur le lien avec le changement climatique. En quoi la montée des océans est un marqueur de ce réchauffement climatique, Annie Cazenave?
Alors, le niveau moyen global est aujourd'hui reconnu, notamment par l'Organisation météorologique mondiale, comme l'un des principaux indicateurs du changement climatique global. Jusqu'à présent, on parlait surtout de la température moyenne de la Terre qui augmente, mais la température, ce n'est qu'un paramètre. Le niveau de la mer, lui, il intègre, comme on va sans doute en parler un petit peu, les changements de plusieurs composantes, de plusieurs compartiments du système climatique, à la fois l'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales avec les eaux continentales, et puis bien sûr les glaces continentales, les calottes polaires, le Groenland, l'Antarctique et les glaciers de montagne sur les continents. Donc c'est un intégrateur de ces changements et c'est un des meilleurs marqueurs, indicateurs du changement climatique global aujourd'hui.
Quelles questions vous vous posez aujourd'hui? Vous avez parlé de l'élévation au niveau de la mer, des glaciers, des variations. Quelles questions majeures vous vous posez aujourd'hui, Annie Cazenave?
Alors, je dirais qu'on se pose beaucoup de questions, évidemment, mais deux grandes questions. La première, c'est de combien la mer va monter dans le futur. Ça intéresse tout le monde, et en particulier les personnes qui sont en charge des aménagements des territoires.
Bien sûr.
Donc, de combien la mer va monter
sur la côte.
Oui, bien sûr. C'est quand même 10% de la population mondiale aujourd'hui, et puis ça sera plus dans le futur. de combien la mer va monter dans les prochaines décennies, à l'horizon 2100 et au-delà. Et derrière cette question-là, qui est la première question seulement, derrière cette question-là, c'est quelle sera la contribution de l'Antarctique et du Groenland. Aujourd'hui, les glaces continentales contribuent à plus de 60% à la hausse que l'on observe par les satellites.
Quand vous dites les glaces continentales...
Oui, alors la fonte des glaciers de montagne. D'accord. Et la perte de masse de glace du Groenland et de l'Antarctique. On regroupe tout ça sous la dénomination glace continentale. Mm-hmm. Le reste étant dû à la dilatation thermique de l'océan. L'océan se réchauffe et donc la mer se dilate, etc. Et une grande préoccupation, c'est de savoir quelle va être la quantité de glace qui va être perdue par l'Antarctique et le Groenland dans les prochaines décennies. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus grands réservoirs d'eau douce sur la planète. Si tout le Groenland fondait, la mer monterait de 7 mètres. Et si l'Antarctique, la partie qui est instable aujourd'hui, l'Antarctique de l'Ouest perdait toute sa glace, eh bien ça ferait à peu près plus 5 mètres de hausse du niveau des mers. Alors vous voyez, 7 plus 5, ça fait 12 mètres. 12 mètres d'élévation du niveau de la mer, eh bien, ça ferait une quantité de régions côtières inondées absolument considérable sur la planète.
Donc il y a intérêt à mesurer et à
aujourd'hui,
étudier,
c'est la grande question. Voilà, alors là, c'est la grande question. Donc les glaciologues essayent de comprendre les causes de la perte de glace qui s'accélère en Antarctique et au Groenland pour essayer de faire des simulations pour le futur, pour différents scénarios de réchauffement. Et puis donc, ça permet d'avoir des estimations de combien la mer montera dans le futur. Ça, c'est la première question. Alors la deuxième question, c'est en lien avec, c'est une question d'impact sociétal, c'est de combien la mer va monter le long des côtes. Parce qu'on pense aujourd'hui que la hausse de la mer à la côte n'est pas forcément exactement la même que celle que l'on mesure au large avec les satellites altimétriques qui, eux, ne sont pas tout à fait capables de s'approcher très près de la côte.
Ah, c'est-à-dire dans maintenant, les 10-15 kilomètres à la côte. Revenir sur la côte, voire mesurer sur la côte.
Voilà, exactement. Parce qu'à la côte, il y a des phénomènes qui viennent se superposer à ces phénomènes globaux dont on a parlé, la fonte des glaces, le réchauffement de l'océan, mais qui sont spécifiques à la côte. Comme par exemple, si vous êtes dans une région de delta estuaire d'une rivière, vous avez un apport d'eau douce à la mer, et l'eau douce étant plus légère que l'eau salée, ça va changer la densité de l'eau, et donc ça va avoir un impact sur le niveau de la mer. Et dans d'autres régions, on peut avoir, par exemple, des tendances dans les vagues, les vagues qui deviennent de plus en plus intenses à cause d'une augmentation de l'intensité des vents, par exemple. Et ça va avoir tendance à faire monter plus vite le niveau de la mer dans ces régions-là, par exemple.
Donc,
il y a toute une catégorie de phénomènes qui n'existent qu'à la côte et qui peuvent avoir un impact sur la hausse du niveau de la mer à la côte. Et ça, c'est une autre grande question sur laquelle je travaille aujourd'hui avec des collègues, des étudiants, et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment la réponse.
Autour de la question pourquoi et comment étudier donc l'océan depuis l'espace, Annie Cazenave, nous avons appris ce matin la mort d'une héroïne de la NASA, Katherine Johnson, à l'âge de 101 ans, surnommée l'ordinateur humain. C'est elle qui avait calculé la trajectoire de la navette Apollo 11, cette figure de l'ombre, pour reprendre le titre du film consacré à ces extraordinaires ingénieurs, femmes, noires, de la NASA, qui ont eu à affronter les pires humiliations malgré leur formidable apport à l'exploration de l'espace. Enfin reconnue à l'âge de 97 ans, Katherine Johnson avait reçu des mains du président Obama la médaille de la liberté. Vous pouvez d'ailleurs, chers amis auditeurs, voir un petit film très émouvant sur ce moment, le regard échangé entre Katherine Johnson et Obama sur le site de Brut. Nous, on tient à rendre hommage à cette femme extraordinaire qui n'a cessé toute sa vie, comme elle le dit elle-même d'ailleurs, de calculer et de se poser des questions sans se prendre au sérieux. Écoutez comment la NASA, qui a nommé de son nom Katherine Johnson, un des centres de recherche de la NASA, lui rendait enfin hommage il y a un an, quand Katherine Johnson fêtait ses 100 ans.
Au nom de toute notre famille de la NASA, je voudrais féliciter Katrin Johnson, la légende de la NASA, pour son 100e anniversaire. Avec ses règles et ses crayons, Katrin et ses collègues pionnières ont permis à notre programme spatial national de littéralement décoller. Bien avant que le livre et le film ne révèlent ces figures de l'ombre à des millions de personnes autour du monde, elles étaient à la NASA à briser les barrières et repousser les frontières des réalisations humaines. La bravoure et la confiance de Katrin, ainsi que son engagement envers l'excellence à la NASA il y a de cela des décennies, continuent de nous inspirer encore aujourd'hui, et c'est encore plus vrai ici, au centre de recherche de la NASA, Katrin Johnson de Langley.
Catherine, we are blessed to have you as a part of our NASA family.
Catherine, nous avons la chance de vous compter parmi notre famille et je souhaite vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre pays et pour la NASA.
Ad Astra.
Ad Astra pour Katrin Johnson, ça vous inspire quelque chose, Annie Cazenave?
Mais j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai une immense admiration et estime pour ces femmes qui travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles, rien à voir avec nos conditions de travail d'aujourd'hui. Et je pense que ça doit être un modèle pour les jeunes femmes, pour qu'elles s'engagent dans les carrières scientifiques. Et malheureusement, il n'y en a pas encore assez.
Absolument.
Et je pense que les femmes, les filles, les jeunes filles, les femmes sont tout à fait aussi capables de faire de la recherche et de contribuer à la connaissance en général et à la science en particulier que les hommes. Et donc, ça doit être un modèle pour les jeunes femmes.
Merci, Annie Cazenave, pour cet hommage donc à Katrin Johnson, figure de l'ombre de la NASA. Hommage musical maintenant, extrait du film, évidemment, Les Figures de l'Ombre, avec cette chanson composée spécialement par Pharrell Williams, Running. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film, Katrin court beaucoup sur ses petits talons entre les grands bâtiments de la NASA, car les toilettes des Blancs lui sont interdites. Voilà. Et toute ingénieure qu'elle soit, elle n'a pas le droit d'aller ailleurs que dans les toilettes réservées aux femmes noires. Running, on l'écoute sur RFI.
Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the man, running from the badge. Don't act like you was there when you wasn't. Running toward our plans in the judge's hands. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say crawl for you all. I am colored. Don't act like you was there when you wasn't. From running to exams, the job is for a man. Don't act like you was there when you wasn't. And the law of the land, women were often banned. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say crawl for you all, but in my mind I already jump. If I stand still, I cannot get far.
Running sur RFI, hommage à Katherine Johnson, formidable héroïne de l'ombre, avec cette chanson composée par Pharrell Williams pour le film Les Figures de l'Ombre, sur le rôle essentiel de ces femmes ingénieures panafricaines de la NASA, trop longtemps ignorées. Autour de la question pourquoi et comment observer la Terre et ses océans depuis l'espace, nous sommes en compagnie d'une autre grande chercheuse qui nous éclaire, c'est vous, Annie Cazenave, et vous êtes pionnière de l'océanographie spatiale. Il y a plusieurs questions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, notamment celle de Franck de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, qui nous demande, qui vous demande, quelle couleur ont les océans depuis l'espace ?
Alors, moi, je peux répondre qu'en fonction de ce que j'ai vu sur des images.
C'est ça, parce que vous les voyez sur Terre. Hein, ouais.
Parce que moi, je ne suis jamais montée dans la navette spatiale. Je travaille dans un bureau, derrière un ordinateur. Mais bon, je crois que les océans, ils sont plutôt bleus, mais aussi un peu verts. Il y a des satellites qui mesurent ce qu'on appelle la couleur de l'océan. Et on voit que, suivant les régions, suivant les saisons, il y a des zones, en particulier près des côtes, qui sont plutôt vert clair. Et ça, c'est dû à la présence de phytoplancton près de la surface. Et donc, l'océan, il est bleu et vert. En pleine mer, loin des côtes, c'est plutôt bleu foncé. Et puis, près des côtes, ça peut être assez vert. Voilà.
En fait, vous, Annie Cazenave, vous travaillez donc sur ces données récupérées par les satellites, mais vous ne travaillez pas précisément sur des images, c'est autre chose. Vous devez ensuite les décrypter et puis modéliser ensuite, en faire des modèles, c'est
exactement.
Ça
exactement. Exactement. Ce sont des données qui sont collectées par les satellites, qu'ensuite on va interpréter en termes de phénomènes physiques. Et donc, on peut en faire des cartes, ou on peut en faire des séries temporelles, etc. Et une fois qu'on a ces données, on essaye de comprendre ce qu'on observe termes de phénomènes, de processus physiques.
Est-ce que vous observez, on l'a dit, voilà, c'est vraiment la montée des océans, que ce soit au large ou que ce soit sur les côtes. Autour de la question pourquoi et comment observer l'océan depuis l'espace, nouvelle question pour vous, Annie Cazenave, soulevée par un jeune chercheur du LISTIC, le laboratoire de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Il s'appelle Alexandre Hyper. Il vous a croisé d'ailleurs lors d'un stage qu'il a mené au Lagos, dans votre laboratoire, c'est sur la glace de mer à l'époque. Aujourd'hui, il travaille sur l'évolution des glaciers alpins. Il a une question pour vous. Écoutez.
Alors bonjour Annie Cazenave, j'avais une question par rapport à la fonte des glaciers de montagne, donc les glaciers alpins, et je voudrais savoir si le niveau des océans ou son augmentation est sensible à cette fonte, à la fonte des glaciers de montagne, et si oui, de combien ?
Question précise, Annie Cazenave, que vous pouvez vous répondre ?
Oui, alors la réponse, c'est oui, bien sûr. Les glaciers de montagne en général contribuent pour à peu près 30% de la hausse du niveau de la mer actuellement. D'ailleurs, je n'ai pas encore dit le chiffre. En fait, la mer, elle monte en moyenne de 3 mm par an. J'ai dit que ça accélérait, ça on l'observe maintenant de façon extrêmement... c'est tout à fait clair. Disons que depuis le début des années 90, on constate qu'en moyenne globale, la mer a monté d'à peu près 10 cm. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est 10 cm ouais. en 27 ans, c'est à comparer à 15 cm sur un siècle, le 20e siècle. Donc, vous voyez, ça monte plus vite.
Alors, c'est cette accélération
précisément à la question.
Allez-y.
Alors, pour répondre à la question... bien sûr, nous, on cherche à comprendre pourquoi la mer monte et quelles sont les causes, quelles sont les différentes contributions. Donc, on analyse d'autres données, des données donc, des glaciers de montagne, de perte de masse de glace de l'Antarctique, du Groenland, le réchauffement de l'océan, etc. Avec différents systèmes d'observation qu'on a la chance d'avoir à notre disposition aujourd'hui, qui ne sont pas les satellites latimétriques, mais qui sont d'autres systèmes. Alors, pour les glaciers de montagne, eh bien, on observe qu'ils contribuent à peu près à 30% à la hausse observée aujourd'hui. Et donc, les glaciers alpins contribuent, ce n'est pas les plus grands contributeurs, c'est plutôt l'Alaska, la Patagonie aujourd'hui. Mais chacun, parce que des glaciers, il y en a des dizaines de milliers, Donc, chacun a sa contribution et donc c'est l'ensemble de, ces, de cette glace fondue qui fait monter le niveau de la mer
et c'est cette
pour à peu près un tiers de la hausse observée.
Et c'est cette accélération hein, qui pose question.
Alors, l'accélération, elle vient surtout du Groenland. Mm-hmm. On est capable de l'estimer puisqu'on a, comme j'ai dit, on a des estimations, des contributions de chaque composante. Et donc, on constate que l'accélération de la hausse de la mer qu'on observe est due pour moitié à l'accélération de la perte de masse de glace du Groenland. Et le reste, 50% dû à l'expansion thermique de l'océan, au réchauffement de l'océan. Et 50%, les autres 50%, c'est plutôt l'Antarctique. Les glaciers, c'est une petite contribution à l'accélération parce que cette contribution, elle est plutôt linéaire. Enfin, du moins, c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec les données dont on dispose.
Alors, au sujet de l'Antarctique, justement, nouvelle question pour vous, Annie Cazenin, soulevée par notre confrère de Science et Vie, Vincent Nouiréga. On l'écoute.
Est-ce que les dernières modélisations sur l'effondrement de l'Antarctique de l'Ouest, voire de l'Est, pourraient réellement mener à une augmentation du niveau des mers de l'ordre de plusieurs mètres, voire plus à long terme? Est-ce que ça l'inquiète?
Est-ce que ça vous inquiète, Annie Cazenave? Avez-vous observé?
Oui, comme je disais tout à l'heure, les deux calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, sont des objets d'une attention toute particulière aujourd'hui, surtout pour les glaciologues, mais aussi pour nous qui étudions le niveau de la mer, parce qu'on pense que dans les prochaines décennies, c'est eux qui contribueront le plus à l'élévation du niveau des océans. Aujourd'hui, donc effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'en Antarctique et partiellement au Groenland, cette perte de masse de glace, elle se fait non pas par fonte en surface, surtout principalement en Antarctique, mais par écoulement rapide des glaciers côtiers vers l'océan. Cette glace, elle se retrouve dans la mer sous forme d'iceberg. Et la cause de ça, c'est le réchauffement des eaux océaniques en périphérie des calottes.
Et, ah oui, c'est ça. Il y a parallèlement un réchauffement de l'eau de l'océan, parallèlement.
L'océan se réchauffe, mais en particulier le long des calottes polaires, les eaux périphériques, enfin l'océan périphérique à la calotte, effectivement, se réchauffe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait fondre par-dessous les plateformes de glace qui sont en avant de ces glaciers côtiers et qui bloquent les glaciers côtiers pour les empêcher de s'écouler à la mer. Mais à partir du moment où elles fondent par-dessous, hein, à un certain moment, elles se cassent. Mmh. Elles sont plus solidaires de la calotte et donc les glaciers côtiers peuvent s'écouler librement dans la mer. C'est un phénomène instable qu'on observe aujourd'hui, surtout en Antarctique de l'Ouest et partiellement dans certaines zones du Groenland. Et la grande inquiétude, c'est qu'effectivement, on soit face à un emballement de ces processus. Mmh. Alors aujourd'hui, les avis des glaciologues sont partagés. On ne sait pas si ce qu'on observe depuis le début des années 2000, en gros, c'est une accélération temporaire, si vous voulez, ou si c'est le début d'un emballement à long terme. Alors, si c'est un emballement à long terme, effectivement, on a du souci à se faire parce que, comme je disais tout à l'heure, si l'Antarctique de l'Ouest, qui est la partie, cette partie-là du continent antarctique est instable parce que le socle rocheux est sous le niveau de la mer. Mm-hmm. Et si toute la glace s'écoule dans la mer, mais ça fait plus 4 mètres, 4-5 mètres de hausse au niveau des océans. Il y a des études récentes qui suggère qu'à l'horizon 2100, l'Antarctique tout seul pourrait contribuer à plus d'un mètre de la hausse du niveau des mers. Alors, tous les glaciologues ne sont pas d'accord sur ces questions-là parce qu'on ne comprend pas encore complètement les processus en jeu. On commence seulement à les modéliser. Donc, c'est compliqué de se projeter dans le futur, de faire des simulations réalistes, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible.
Et vous êtes
voilà. Et donc je voudrais juste dire moi qui suis plutôt une observatrice qu'une modélisatrice, l'observation est absolument fondamentale. Juste un mot, si je me reporte il y a à peu près il y a 20 ans maintenant, je me souviens de collègues glaciologues, en particulier dans mon laboratoire, qui disaient oh, les calottes polaires, elles réagissent encore à la dernière déglaciation, 10 000 ans, et elles ne sont pas sensibles au réchauffement climatique à cause de l'inertie thermique de la glace, etc. Et puis en fait, c'est faux. On a découvert, grâce à l'observation par satellite, alors d'autres systèmes, pas les satellites altimétriques, mais d'autres types de satellites, que l'Antarctique et le Groenland perdent de la glace de façon accélérée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est une réponse au changement climatique actuel.
Ouais, de quoi.
Donc voilà, c'est
de l'intérêt de l'observation
est vraiment fondamentale.
L'observation vue de l'espace. Alors on s'en rend bien compte du fait de vos recherches, de vos découvertes, de vos observations justement. Vous êtes une chercheuse engagée. Vous avez été membre du GIEC, hein, et jusqu'où une chercheuse qui travaille comme vous, vue de l'espace sur l'océan, sur les questions de changement climatique, peut et doit s'engager. C'est tout le sens d'une nouvelle question soulevée par notre jeune chercheur qu'on écoutait tout à l'heure du Listique, Alexandre Hippert.
Une question qui serait un peu plus d'ordre sociétal et donc liée au réchauffement climatique. Vous avez participé à la rédaction du 5e rapport du GIEC et on voit en ce moment, malgré le consensus scientifique sur la question du réchauffement climatique d'origine anthropique, on constate une certaine inertie dans la prise de décision. Et donc ma question porte sur, donc en ce temps de crise climatique et de biodiversité, est-ce que le scientifique doit se tenir à son rôle d'informateur, donc de description, comme on le fait dans les rapports du GIEC, ou est-ce que maintenant, en plus de ce rôle, il doit agir publiquement, comme l'a évoqué cette tribune parue dans Le Monde la semaine dernière ?
Quelle est votre position à cette question complexe, Annie Cazenave ? La Tribune du Monde à laquelle Alexandre faisait allusion, je vous laissais répondre, elle a juste été publiée le 20 février dernier, je rappelle son titre, « L'appel de 1000 scientifiques face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire ». Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense qu'effectivement, la rébellion est nécessaire, mais après, c'est une question difficile qui nécessite une décision personnelle de s'impliquer au-delà de la simple information. Je pense à titre personnel que je sais pas, je suis pas faite pour faire de la politique. Ce qui m'intéresse, c'est là où je suis plus compétente, c'est la science. À titre personnel, mais je pense qu'il y a des collègues qui aussi sont capables de faire les deux et ils le font très bien. Moi, je vois mon rôle plutôt dans l'information et la formation, en particulier auprès des scolaires. Oui. Et il m'arrive souvent d'aller faire des conférences ou de faire des conférences devant des enfants,
oui, de soit faire passer ce que vous voyez,
de l'école
ce que
primaire,
vous savez,
des collèges ou des lycées, et donc je pense que là l'information et la formation à la connaissance de ce grand problème qu'est le changement climatique que connaît la planète aujourd'hui, c'est aussi fondamental. Alors à la fois auprès des enfants et puis du grand public en général.
Depuis l'espace,
je suis
aussi
assez souvent sollicité pour ce genre de
depuis l'espace, question. Il faut que ça redescende aussi jusque sur le bureau des décideurs mondiaux. Hein. C'est quand même ça la grande interrogation.
Tout à fait. Après, moi, je suis assez optimiste quand même parce que c'est clair qu'on voudrait que les décisions soient prises aujourd'hui le plus vite possible parce que plus on attend, plus les impacts du réchauffement climatique seront négatifs. Tout le monde le sait, les scientifiques l'ont dit. Et donc là, il y a... On est tous complètement persuadés de ça. Mais en même temps, je ne suis pas si pessimiste que ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, au moins dans nos pays et en France en particulier, il y a une prise de conscience à tous les niveaux. Peut-être un peu moins rapide au niveau politique, mais au niveau gouvernemental. Mais auprès du grand public, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et puis, à travers les médias, on parle très souvent des impacts du changement climatique.
Et vous continuez aujourd'hui, de mener vos recherches. De la hausse,
On a parlé de la hausse du niveau des mers parce que c'est mon sujet de recherche, mais c'est un phénomène lent qui certes va continuer pendant très longtemps, plusieurs siècles, même si on arrêtait demain les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce que je trouve personnellement plus inquiétant, ce sont les événements extrêmes qui se multiplient en intensité, dont l'intensité devient de plus en plus importante. Les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les tempêtes, les cyclones, etc. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire, et si ce n'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible.
C'est ça, on va y être forcé. Autour de la question de l'océan et de la mer qui monte, vue de l'espace, comme sur Terre, allez, on a envie de vous faire écouter la mer, justement. Annie Cazenave est revisitée par le Cora Jazz Trio, quand la chanson de Charles Trenet prend des accents mandingues et jazzy. Le Cora Jazz Trio sur RFI. La mer sur RFI le long des golfes clairs avec Djeli Moussa Diawara à la Cora. Quand le Cora Jazz Trio revisite la mer de Charles Trenet, c'est pour vous Annie Cazenave autour de la question comment observer, étudier la mer et les océans depuis l'espace. Question plus que jamais d'actualité avec le changement climatique. Je vous propose de nous arrêter sur un satellite, le satellite Cephosat de mission d'océanographie spatiale franco-chinoise, lancé il y a un peu plus d'un an, qui vient d'annoncer la mise en ligne en accès libre et ouvert à l'ensemble de la communauté scientifique de toutes les données recueillies par ce satellite en orbite au-dessus de nos têtes et au-dessus des océans.
CFOSAT est une mission d'océanographie spatiale menée conjointement par les agences spatiales françaises et chinoises. Elle est dédiée à l'étude du vent et des vagues à la surface des océans. La charge utile du satellite CFOSAT est composée de deux instruments radar, SCAT, un diffusiomètre à vent chinois, et SWIM, un diffusiomètre à vagues français. Le satellite est placé sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 520 km. L'instrument SWIM est conçu pour mesurer les propriétés des vagues. L'instrument SCAT est conçu pour mesurer l'intensité des vents et leur direction. CFOSAT utilise un réseau de stations en bande X françaises et chinoises pour la réception des données scientifiques. Celles-ci sont traitées en France et en Chine et fournissent des informations aux centres de prévision météorologique tels que l'état de la mer avec les hauteurs significatives de vagues, leur longueur d'onde et leur direction de propagation dominante, et des cartes de vent à la surface des océans exploitables pour les activités marines. Les données CFOSAT sont également utilisées dans des applications plus complexes, telles que les cartes de prévision de l'état de la mer ou les services de routage du trafic maritime. Aujourd'hui, les échanges océan-atmosphère font l'objet de toute l'attention de la communauté scientifique, car ils jouent un rôle majeur dans notre système climatique. Toutefois, les interactions entre les vents et les vagues à la surface des océans ne sont pas entièrement comprises. En outre, l'amélioration des prévisions des phénomènes extrêmes tels que les cyclones et les fortes tempêtes demeure un défi important à relever. CFOSAT constitue un atout majeur pour mieux comprendre le climat de notre planète.
Annie Cazena, vous parliez à l'instant de ces phénomènes de plus en plus violents qui nous frappent. Du coup, je voulais vous faire réagir à cette collaboration, non seulement franco-chinoise, pour essayer de mieux comprendre le vent et les vagues de l'océan, mais aussi à l'ouverture de toutes ces données pour que toute la communauté scientifique puisse travailler là-dessus.
Oui. Alors d'abord, effectivement, je voudrais rappeler que la plupart des missions spatiales d'études de la planète, l'observation de la Terre, sont faites en collaboration parce que ce sont des missions chères et donc c'est mieux de partager effectivement les budgets.
Et ce sont des missions chères et il n'y a pas vraiment de frontières, que ce soit dans l'espace ou...
Tout à fait, absolument.
Pour l'océan. Hein.
La planète, c'est un tout. Mmh. Et donc les missions altimétriques que j'ai mentionnées tout à l'heure, comme TOPEX Poséidon, JASON 1, JASON 2, JASON 3... il va y avoir un autre JASON lancé prochainement. C'est en collaboration avec principalement les États-Unis. Et en Europe, on a l'Agence spatiale européenne qui a ce programme, qui contribue à ce programme qu'on appelle Copernicus, d'observation de l'environnement en général. Pas seulement du changement climatique, mais des changements globaux qui affectent la planète aujourd'hui. Parce qu'il y a d'une part le changement climatique, mais il y a aussi toutes les activités humaines qui peuvent amener à des changements sur les terres émergées, etc. Et donc, c'est une collaboration internationale. Et les données aujourd'hui sont accessibles, en particulier celles du grand programme européen Copernicus, sont accessibles gratuitement à tout le monde, à la communauté scientifique, mais pas que, aussi... aux décideurs politiques, à des sociétés privées, etc., qui peuvent faire des produits à valeur ajoutée, par exemple, utiles pour des applications. Donc aujourd'hui, on est dans le paysage est assez positif puisque on a beaucoup de données. Et c'est très important d'avoir beaucoup de données parce que la planète, les changements de l'environnement et du climat, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui, avec des interactions de tous les compartiments, l'atmosphère, l'océan, les terres émergées, etc. Donc, on a besoin de multiplier la mesure de tout un tas de paramètres. Et puis, on a besoin de laisser ces données accessibles à la communauté scientifique internationale pour accroître les connaissances et donc ensuite pour être capable de faire des projections, des prévisions pour le futur qui soient le plus réalistes possible.
Et puis, on a besoin
Aujourd'hui, on est dans ce schéma-là et je pense que c'est une bonne chose.
Et on a besoin de chercheuses comme vous, j'ai envie de dire, Annie Cazenave, qui venait d'ailleurs d'être...
moi et d'autres.
Vous et d'autres, et toute votre équipe. En tout cas, je rappelle tout de même que vous venez de recevoir le prestigieux prix de la Fondation Vetlesen 2020 pour vos travaux, qui vous seront remis en avril à l'Université Columbia aux États-Unis, comme quoi, effectivement, il n'y a pas de frontières quand on observe l'océan depuis l'espace. Merci infiniment, Annie Cazenave, d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Toulouse. Merci à la technique, à Vincent Mial. Et ben, vous revenez quand vous voulez, en duplex ou en vrai, pour continuer à nous parler. Merci Annie Cazenave.
Merci, au revoir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur votre application. Vous pouvez même vous abonner d'ailleurs à notre podcast. Nous vous en serons très reconnaissants. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs. Autour de la question des paradoxes, à quoi nous servent les paradoxes? Piste de réponse forcément paradoxale à partager avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.